puce à l'oreille.
Promouvoir la biodiversité de proximité.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Charlotte.
Aujourd'hui, tu nous parles d'un drôle d'animal, la phalène du bouleau. Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Eh bien, la phalène du bouleau, c'est un papillon de nuit. Et comme on a parlé déjà sur notre chronique d'homochromie, et on a abordé le sujet de la phalène, donc je voulais qu'on en reparle et qu'on détaille un petit peu parce que c'est très intéressant. En observant ce papillon de nuit, on peut comprendre ce qu'est l'évolution des espèces. La phalène du bouleau, c'est un papillon de nuit donc, qui passe sa journée à attendre, posé sur un arbre, que la nuit arrive pour vivre sa vie de papillon de nuit. Ce qui veut dire qu'il doit forcément avoir un costume parfaitement camouflé pour éviter le bec des mésanges qui passent leur journée à chercher sur les arbres, arbustes, buissons, de quoi se mettre une petite denrée sous la dent. La phalène du bouleau, donc, comme son nom l'indique, est inféodée au bouleau, c'est-à-dire que sa chenille ne se nourrit que des feuilles de bouleau, et c'est donc souvent sur ces arbres-là qu'il va se poster la journée. Les bouleaux, l'écorce du bouleau, c'est blanc avec des petites taches noires. Il se trouve que la phalène du bouleau est blanche avec des petites taches noires. Pour l'instant, tout va bien. Sauf que au milieu du XXe siècle, les usines tournent à plein régime et elles tournent à plein régime au charbon. Et on s'aperçoit que 90% des phalènes sont devenues noires.
Pas à cause du charbon sur leurs ailes.
Elles sont réellement devenues noires génétiquement. Quand elles naissent, elles sont noires. Alors, il n'y a pas une réunion syndicale où elles se sont dit « les filles, il y a un problème, les bouleaux devenant noirs, quand on est posé, nous, dessus et qu'on est blanc, ça se voit trop, on va se faire bouffer, faut vraiment qu'on trouve une solution, révoltons-nous. »
À mort le charbon, ou alors on change de
couleur. Donc, on explique très souvent l'évolution comme ça, hein, donnant l'impression que les papillons sont intelligents et qu'ils ont réfléchi au truc. Mais en fait, c'est la nature dans l'ensemble qui est assez intelligente et qui s'est adaptée. Et très souvent, donc, l'évolution d'une espèce, elle se fait au gré d'une mutation qui ensuite est validée ou pas par la sélection naturelle. S'il y a un avantage à cette mutation, eh bien, elle va prendre le dessus. S'il n'y a pas d'avantage, elle va disparaître. Donc la mutation animal noir, ça s'appelle le mélanisme, c'est connu dans à peu près tous les règnes. Il y a des poissons, il y a des reptiles, il y a des mammifères, et voilà, il y a dans tous les règnes des oiseaux qui normalement ont leur couleur caractéristique de l'espèce et qui là sont tout noirs. C'est un dérèglement de la production de la mélanine dont on a parlé la dernière fois. Et comme généralement ça n'apporte aucun intérêt, eh ben c'est rare. C'est-à-dire l'individu qui le porte ne va pas forcément le transmettre aux autres, à sa descendance.
Ça reste un cas isolé.
Ou en fait, comme il va être lui noir par rapport au reste de la population, il va être très visible, il va se faire croquer et donc il ne pourra pas transmettre ce phénomène. Sauf que, et donc la phalène du bouleau, toute blanche normalement, en 1848... Eh bien, il y a un entomologiste, donc c'est les petites personnes qui étudient les insectes, qui avait découvert une phalène noire. Donc pareil, voilà, un individu, ça n'avait pas tellement d'intérêt, donc ça n'a rien fait. 100 ans plus tard, donc, on l'a vu, hein, plein de charbon, donc tous les arbres, tous les bâtiments, tous les supports pour la phalène du bouleau sont devenus gris dans les villes, autour des villes. Eh bien là, 90% des phalènes sont devenues noires. Ben, comment ça s'est passé? En réalité, les individus se sont posés sur les arbres. Certains ont mis au monde des individus qui avaient un problème, c'est-à-dire qui étaient tout noirs, le mélanisme. Mais ces individus se sont posés à leur tour sur des supports et ils sont passés beaucoup plus inaperçus que les individus blancs. Ce qui veut dire que tous les individus blancs étaient visibles comme le nez au milieu de la figure et donc se faisaient croquer par un ensemble de prédateurs. Ces individus noirs, eux, posés sur ces murs sales ou sur ces bouleaux sales, ne se voyaient pas et donc ils ont tranquillement pu se reproduire et mettre au monde tous ces individus qui portaient la même génétique qu'eux, c'est-à-dire le mélanisme, donc les individus noirs. On est donc passé d'une espèce qui était quasi complètement blanche à une espèce quasi complètement noire. Ce qui est rigolo, c'est que Le phénomène est réversible. En 1956, le Parlement de Londres... Je vous ai dit que ça se passait à Londres, ça ?
Non.
Ah, ben voilà, bah c'est
oui,
maintenant.
Parce que, en fait, il aurait fallu que tu fasses ta chronique en anglais.
Ah yes, ah bah ça aurait été very difficult, hein. Formidable. Donc, ces études ont eu lieu en Angleterre. Et donc en 1956, le Parlement de Londres interdit l'émission de dioxine. Ce qui fait qu'en 2 ans, toutes les usines qui fonctionnaient au charbon ont fermé. Et de nouveau, les bouleaux sont devenus blancs et les bâtiments un peu plus clairs. Eh bien, figurez-vous que la phalène noire, les phalènes du bouleau noir, sont de nouveau exceptions. Et c'est les phalènes du bouleau blanche qui ont repris le dessus.
Incroyable. Et aujourd'hui, est-ce qu'on voit encore beaucoup d'espèces noires ?
Beaucoup d'individus noirs ?
Beaucoup d'individus, pardon.
Non, pas tant. Non, c'est devenu exception, ouais. comme nous, on peut observer, par exemple, dans les Bouches-de-Vent, il y en a un petit peu partout. Enfin, un petit peu partout. Il y en a à d'autres endroits, mais moi, j'ai connaissance d'une vipère aspic complètement noire dans les Bouches-de-Vent. Sur l'évolution, là, on peut faire un petit parallèle avec l'éléphant. Les éléphants, ils ont des défenses qui leur permet, pour les mâles, d'arborer de jolis attributs. Donc ça, c'est toujours bien parce que ça plaît aux dames. Et puis, ça permet aussi de se défendre, de se battre. Donc avoir des défenses pour un éléphant, c'est vraiment un point positif. Eh bien, il arrivait que des éléphants femelles fassent des petits qui n'avaient pas de défense. C'était une sorte de mutation. Et donc, les petits naissaient sans défense. Eh bien, justement, donc, ils étaient sans défense. Donc, ce n'était pas un avantage pour l'espèce. Et ça n'a pas donc perduré. Il se trouve qu'avec le braconnage,
et, oui.
Et donc, plus les défenses sont importantes, plus c'est intéressant de tirer sur l'éléphant en question. Enfin, je parle de salaud, hein, donc un intérêt mesuré.
On se calme.
Et ben, ça fait que maintenant, pour un éléphant, avoir des défenses, c'est plutôt un inconvénient. Et tous ceux qui ont des magnifiques défenses se font descendre. Ce qui fait que toutes les femelles qui faisaient des petits éléphants sans défense, continuent à en avoir. Et ces éléphants, eux, vont survivre. Et c'est un véritable avantage pour eux. Et on s'aperçoit de plus en plus que la population d'éléphants est en train de devenir naturellement une population sans défense.
Mais par rapport à justement cet avantage de défense vis-à-vis des autres animaux, ça ne pose pas de problème
Eh bien, ils sont relativement imposants quand même. Donc même sans défense, c'est faisable de se défendre. Mais c'était surtout entre eux. Entre eux, quand ils voulaient se battre, c'était assez simple de dire, tu vois,
je suis plus fort.
Sauf que là, ceux qui étaient vraiment plus forts avec leur défense...
Ils n'étaient plus là.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Sébastien.
Et merci à vous.
Et à bientôt pour une nouvelle chronique.
Vous venez d'écouter La Puce à l'oreille.
La chronique biodiversité de Radio Alto.
Retrouvez-la en podcast sur le site radioalto.info.
Et sur le site colocataire.com. Terre, T-E-2-R-E.